Véronice, Gérard Uferras raconte leur amitié.
Gérard Uferras et Willy Ronis se sont rencontrés à RAFO, leur commune agence de photos. À la mort de Willy, Gérard est devenu l'un des quatre légataires chargés de faire vivre son œuvre. L'association de l'Œil en Seine accueille à la Villa Tamaris, jusqu'au 17 septembre 2023, l'exceptionnelle exposition Willy Ronis par Willy Ronis. À cette occasion, Gérard Uferras nous raconte son amitié avec l'un des maîtres de la photographie humaniste. L'amitié d'un alors jeune photographe et d'un vieux monsieur disparu peu avant son 100e anniversaire. Mais comme le dit Gérard, Willy n'a jamais été vieux. La première question, Gérard Uferras, c'est quand as-tu rencontré Willy Ronis, dans quelles circonstances ?
J'ai passé 7 ans à l'agence Vue et ensuite je suis passé chez RAFO. Et alors je connaissais bien évidemment l'œuvre de Willy parce que de ma génération tout le monde la connaissait, c'était pour moi une œuvre essentielle, c'est un des grands maîtres de la photographie, j'adorais son regard, sa culture et tout ça était combiné dans une photographie merveilleuse parce qu'elle était tendre, elle était humaine et a été merveilleusement cultivée au niveau de la forme et moi j'adorais vraiment le travail de Willy. Et puis un jour, j'avais besoin d'une lettre de recommandation de quelqu'un de la profession pour demander une bourse. Et très souvent chez RAFO, c'était très familial. Alors on fêtait les anniversaires, on tirait les rois. Et un jour, j'étais à côté de Willy et je lui ai dit « Écoutez, voilà, je suis un des photographes de l'agence. Est-ce que vous auriez la gentillesse d'écrire un petit texte pour que je puisse constituer un dossier sur mon travail ?» Alors il m'a regardé comme ça un petit peu, parce que c'est quelqu'un d'une droiture absolument rigoureuse. Il m'a dit « Écoutez, d'abord, il faudrait que je voie votre travail. » Et alors, à l'époque, j'avais une exposition au Carousel du Louvre. Et ben, je lui ai dit « Écoutez, le Carousel du Louvre, c'était à 5 minutes de chez RAFO, hein, parce que RAFO était rue d'Alger. » Et je lui ai dit « Si vous avez un petit peu de temps, si vous pouviez aller voir l'exposition, comme ça vous verriez un petit peu mon travail. » Et il est allé voir l'exposition, il m'a écrit tout de suite un texte qui était formidable. On est devenus amis instantanément, quoi. Voilà. Et ça, c'était le début d'une très grande amitié pour moi. Mais enfin bon, je dis ça pour moi, mais ça a été le cas de beaucoup de gens, parce que je n'ai jamais vu dans ma vie quelqu'un qui avait autant d'amis. Parce que c'était un être tellement exceptionnel que tout le monde l'aimait. Moi, j'étais tout le temps fourré chez lui, en fait. En fait, j'y passais mes week-ends, on allait se balader sur les bords de Marne, je prenais en bagnole et tout ça, puis on est devenus amis, quoi. Mmh. Et ce qui était merveilleux, c'est que c'était tous les gens qui ont approché Willy l'ont su. C'est-à-dire que Willy n'a jamais été vieux. Mmh. Hein. C'est-à-dire que donc il n'y avait pas de différence d'âge comme ça. C'était une amitié, voilà. Puis on partageait beaucoup de choses. On partageait le rapport à l'art, le rapport à la musique. La musique a été essentielle dans la vie de Willy et donc on a beaucoup parlé de musique, on a beaucoup parlé de tout en fait. C'est un type qui était émerveillé par le monde, par la vie et tu le voyais un jour, il avait regardé un truc à la télé la veille. Mais est-ce que t'as vu ça? Mais t'as vu comme c'était extraordinaire et tout. Il avait un pouvoir d'émerveillement qui est absolument prodigieux.
Et donc vous faisiez des déjeuners, des balades, vous regardiez les photos ensemble?
Ah oui, moi j'ai découvert tout son travail chez lui. Ah oui. Mais j'ai peu à peu, j'ai connu je connaissais très bien toutes les icônes. Et puis voilà. Oui, puis il y a eu des trucs marrants. Par exemple, un jour, j'ai toujours aimé l'avenue Simon Bolivar. Cette photo absolument merveilleuse, où il y a une volée de marche, une femme qui tient son bébé, et en dessous, une charrette qui passe, une charrette tirée par un cheval, un type assis sur une chaise dessus, derrière quelqu'un qui est en train d'arranger c'est pas un réverbère, c'est un feu... et puis derrière le cordonnier, enfin, et puis il y a aussi une femme avec son landau et tout ça, et derrière tout Paris qui s'étale en bas de Ménilmontant. Et un jour, je regardais cette image-là et je lui disais combien elle avait été importante pour moi dans ma vie. C'est une merveille parce que c'est à la fois un chef-d'œuvre, mais c'est pas un chef-d'œuvre qui clame qu'il est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre d'harmonie, de douceur, du temps qui passe, une certaine idée de la vie, d'une certaine douceur de vie. Et je lui dis, et ce qui est merveilleux, c'est le chat. Même le chat est là. Et là, Willy me regarde, mais il dit, mais il n'y a pas de chat. Et c'est merveilleux comment on regarde ses propres photos. Il n'avait pas remarqué qu'il y avait un chat dans l'image.
Ah ouais.
Je me suis marré parce que on était devenus des amis. Il ne m'avait jamais parlé avec autant de véhémence. Je dis, mais il n'y a pas de chat. Et le chat est apparu. Et ensuite, il a écrit un texte qui est merveilleux, que j'invite tout le monde à lire. Ça s'appelle « Une manigance d'un chat nommé Bolivar ». Et il imagine, parce qu'il a beaucoup, beaucoup imaginé sur ses photos, il imaginait que le chat s'est enroulé dans ses jambes, qu'il l'a retardé, parce que le chat avait remarqué que la charrette allait passer à tel endroit, que la femme descendait avec son bébé, que derrière, etc. Et tout, et que grâce au chat, eh ben, il a pu faire ce petit miracle de la photographie. Et voilà, donc on regardait beaucoup ces images, et puis on parlait de tout. Moi, je lui montrais mon travail. Il a toujours eu une curiosité énorme pour tout le monde, pour tous les photographes. Et il disait que d'abord, ça avait été un métier difficile, que peut-être la chance qu'il avait eue, c'est que c'était pas un métier choisi pour lui, puisque au départ il voulait devenir compositeur. Il a beaucoup écrit de musique quand il était jeune, et son père avait un magasin boulevard Voltaire, il était photographe, et il a demandé à Willy s'il pouvait venir l'aider, et c'est comme ça qu'il est rentré dans la photographie. Et quand son père est mort, le magasin était criblé de dettes, et il a liquidé le magasin, et il a conservé un appareil qui est un appareil amateur. Parmi les premiers travaux vraiment de professionnels qu'il a fait, c'est le 14 juillet 1936 avec cette photo absolument extraordinaire d'une petite gamine avec un bonnet phrygien sur les épaules de son père. Et voilà, ça a été le début d'une aventure qui était absolument exceptionnelle. Et comme Willy, dans sa jeunesse, dessinait énormément, il adorait arpenter les couloirs du Louvre, et il a fait son œil. Et c'est pour ça que ces photos sont tellement fortes, c'est parce que c'est des photos d'un œil averti. À ce moment-là, il travaillait beaucoup pour Life, et il a demandé à ce qu'il puisse écrire lui-même ses propres légendes. Et le bureau de Life a dit, mais non, nous on a des gens qui écrivent les légendes, on ne peut pas faire une exception pour vous. Et il a décidé d'arrêter de travailler pour eux. Et ça a été terrible, parce que du jour au lendemain, il a eu beaucoup, beaucoup moins de travail. Il ne voulait pas mettre, à l'époque il était chez Raffo, il n'avait pas voulu mettre l'agence en danger. Et il ne voulait pas être en porte-à-faux, que l'agence soit en porte-à-faux. Et il a quitté l'agence et il est descendu dans le sud. Et Willy a beaucoup réfléchi sur la photo et il a donné des cours. Et puis il s'est installé à Gordes. Par la suite, il est allé à Lille sur la Sorgue parce que Marianne, sa femme, s'ennuyait beaucoup à Gordes. Et puis peu à peu, elle a eu des problèmes de santé. Et il s'est rendu compte que ce serait vraiment difficile de rester seul à vivre dans le sud, que ce soit pour elle ou pour lui. Et à l'époque, c'est là qu'ont commencé les discussions avec l'État pour le don de son œuvre. Il est remonté sur Paris à ce moment-là.
Oui, et puis la photo, là, a commencé à prendre un autre élan.
Oui, ça a commencé à prendre un autre élan. Et puis, peu à peu, les années passant, Willy a été de plus en plus reconnu. Il avait été l'invité d'Arles, je ne sais plus dans quelle année, dans les années 80. Il a eu le Grand Prix de la photographie. La donation a donné lieu à une très grande exposition en 85 de son travail, je ne sais plus si c'était pas au Musée d'Art Moderne ou au Grand Palais. Et voilà, et peu à peu, les gens ont de plus en plus connu l'œuvre. Et il y a eu des expositions qui ont... Ça a culminé par l'exposition à la mairie de Paris où il y a eu 500 000 visiteurs. Et donc, il a terminé sa vie dans une reconnaissance totale. Et juste avant d'arriver à 100 ans, il a été l'invité des rencontres d'Arles. Il a été ovationné par toute la profession. J'ai pas pu y aller à ce moment-là parce que j'étais à l'étranger, j'étais en reportage à l'étranger. Et quand je l'ai revu, il revenait d'Arles, il était absolument tellement ému par ce qui s'était passé, par cet élan d'amour qu'avaient tous les photographes pour lui. Et quand Willy est revenu des rencontres, il m'a dit, écoute, c'était absolument extraordinaire, mais il m'a dit, tu vas voir, pour mes 100 ans, ça va être encore mieux. Et malheureusement, il est décédé juste avant ses 100 ans. Oh, il a eu une fin de vie formidable. Disons qu'il me disait, écoute, tu te rends compte, j'ai tiré la langue pendant toute ma vie, j'ai jamais eu d'argent et tout. Maintenant, j'en ai plein, je sais même pas quoi en faire. Quel dommage que ça arrive si tard. Mais je lui disais, en même temps, écoute, t'as une chance formidable parce que t'es entouré d'amitié, d'amour, les gens aiment ton travail. C'est formidable pour un photographe d'avoir la chance de son vivant, de voir comment... Parce qu'il me confiait que pendant de nombreuses années, il était seul à penser que son travail avait peut-être quelque chose, tu vois, quelque chose de qui avait une certaine valeur, quoi, qu'il avait une certaine tenue.
Ce podcast a été enregistré à Sifour-les-Plages le 18 juin 2023 dans les jardins de la Villa Simone par Michel Puech. La réalisation est de Jean-Louis Vinet, avec la voix de Rose Monet. C'est une production de l'association Journalisme et Photographie pour l'Œil de l'Info.